théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Nous sommes heureux d'ouvrir l'année 2019 par les mots d'un poète avec Jacques Prévert, le sentiment et la certitude de la fraternité entre en scène. Jacques Prévert va être célébré au Théâtre du Rond-Point à Paris. Deux artistes se chargent de le ressusciter. Christian Olivier et Yolande Moreau ont conçu un spectacle musical qui fera, on en prend les paris, du bien à toutes les âmes. De l'humanité profonde de Prévert, nous faisons aujourd'hui le centre d'une saison au théâtre et c'est avec Yolande Moreau, comédienne bouleversante qui sait dire comme personne le cœur battant des femmes et des hommes, que nous ouvrons à sa lettre H comme Humanité, notre encyclopédie vivante du théâtre qui se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Poitiers. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
J'aime lire. J'en ai pris très vite l'habitude. Le livre refermé, je n'oublie pas aussitôt ce qu'il y a dedans. Mais je confonds souvent les histoires que j'ai lues avec celles qu'on m'a racontées. Mais pas le petit chose avec David Copperfield. Ni la dame de Montsoreau avec Milady de Winter. Sauf les mémoires d'un âne à cause de Cadichon, je n'aime pas la bibliothèque rose. Pourtant, les malheurs de Sophie m'auraient amusé s'ils étaient arrivés à grand-mère. Je n'aime pas les livres dont on m'a fait cadeau le jour de l'an. Je n'aime pas les lettres de mon moulin. Je n'aime pas le sous-préfet Auchan qui faisait des vers en mâchant les violettes. Je n'aime pas ces livres. Je préfère les autres, tous les autres, tous les livres des autres. Je lis un livre de maman. Le voyage d'une noce parisienne autour du monde.
Oh, je voudrais tant.
Mon rêve est trop beau pour être compris. Ce sont les sorciers qui m'ont appris. C'est un indien.
Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent.
Bonjour Yolande Moreau.
Bonjour.
Vous savez qu'on a des frissons quand on vous écoute chanter avec Christian Olivier cette chanson de Jacques Prévert.
Faut dire qu'il écrit pas mal
et que vous chantez plutôt bien tous les deux.
La chanson est belle, la musique. Ouais.
Mais l'accord entre vous fonctionne à merveille.
En tout cas, c'est un grand plaisir de la chanter. Je trouve que elle est magnifique et puis je pense que c'est la seule reprise musicale qui a été reprise par Christian Olivier. Et je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose peut-être de différent qui existait, bien que l'autre version est très belle. Mais j'aime beaucoup ce moment-là, d'ailleurs.
Qui nous ressemble.
Toi,
tu m'aimais. Je t'aimais.
Alors, on entendait la voix de Jacques Prévert en tout début de cette émission, Yolande Moreau. C'est assez marrant ce qu'il raconte. Il dit qu'il aimait lire, mais il n'aimait pas lire la Bibliothèque Rose. Est-ce que vous aimiez lire les livres de la Bibliothèque Rose, petite fille?
Ah oui, moi j'aimais bien.
Oui.
J'ai des souvenirs, j'aimais bien les malheurs de Sophie. Et puis, nous, on ne pouvait pas lire des bandes dessinées de nos parents parce qu'ils pensaient que ce n'était pas bon, qu'il fallait nous amener vers la lecture. Moi, je me rappelle de plein de choses. Général Dourakine. Puis on est passé au vert, ça c'est un peu plus grand.
Parcours classique, hein.
Oui.
Les oui-oui, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte.
Voilà.
Et après, les livres rouge et or.
Rouge et or.
Vous vous souvenez de cela?
Oui, absolument. J'ai pas de titre. Si, la case de l'oncle Tom, par exemple.
Cette habitude de lire que vous avez depuis l'enfance, vous l'avez gardée? Vous lisez toujours beaucoup, Yolande Moreau?
Par à coup. Il y a des fois où je dévore des livres. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. Et puis, des longues périodes, non. Je sais que parfois, je dois faire l'effort de commencer. Puis ça, ça m'entraîne. Et alors, un livre en entraîne d'autres. Mais j'ai de longues périodes aussi où, non, je suis intéressée par autre chose, par la vie autour de moi, le jardin, les amis.
Le cinéma.
Le cinéma.
Qui vous occupe quand même beaucoup?
Oui, ça m'occupe. Ah bah oui, quand même.
On voit beaucoup sur les écrans de cinéma, Yolande Moreau. Vous êtes devenue une figure grande, belle, confirmée du cinéma d'auteur.
En tout cas, j'essaie de faire des choses qui me plaisent. Donc, oui, il y a le film des Estivants qui va sortir bientôt de Valérie Bondy. Et cette année, le film aussi de Lépine et Kervern. Des choses que j'aime bien faire, quoi.
De Lépine et Kervern, avec qui vous avez déjà tourné. Vous êtes fidèle dans le travail, Yolande Moreau ?
Aux amis, oui. Là, je sais que de Lépine et Kervern, je pourrais accepter un scénario les yeux fermés maintenant. C'est que ça n'a pas toujours été le cas, parce que j'avais failli refuser Mammouth, or que c'est un grand film.
Grand rôle, grand Gérard Depardieu, grand Yolande Moreau.
Complètement.
Si belle rencontre entre
vous.
Oui,
mais je m'étais énervée parce que je trouvais que la femme avait été toujours dans... Elle râlait parce que l'homme gagne pas d'argent. Elle râlait parce que il pissait sur la planche. Elle râlait. Il y avait un. Je me dis, oh, bah, ça va. Voilà, j'avais fait mon caca nerveux. Mais heureusement que je l'ai fait parce que j'adore le film.
Alors, puisqu'on parle de cinéma, avant d'arriver à Prévert, on va y rester un tout petit peu et revenir à travers ce prix Magritte du cinéma que vous avez obtenu pour votre second rôle dans Camille Redouble.
Ah oui.
Vous souvenez de ce prix-là?
Oui.
C'est un prix belge, du nom de Magritte, qui lui-même était belge. Je voudrais qu'on écoute la voix de René Magritte.
Le surréalisme représentait pour moi ce qu'il fallait penser. En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible, à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie.
Je voulais vous demander, Yolande Moreau, à partir de ce qu'il dit sur la peinture, qui est soumise à la dictée de la pensée, si on peut faire une analogie avec le jeu de l'actrice. Est-ce que c'est la pensée qui parle en vous? Est-ce que c'est l'émotion? Comment ça s'articule chez vous?
Mais c'est marrant, au moment où je l'écoutais, je me disais, tiens, mais ça peut se raccrocher aux mots. Ou en tout cas, à la manière de dire les choses, ou à la manière, des fois, de les mettre dans les films aussi. Parce que des fois, j'ai mal résumé ma pensée en disant que je n'aime pas les mots dans les films que je trouve trop bavards, mais j'adore les mots. En quoi ils résonnent un peu comme de la peinture, justement, ce qu'ils ont d'abstrait ou qui tape à l'âme. Et je retrouve ça, par exemple, dans Prévert. C'est très jouissif de dire les mots. Il y a une musicalité, je la retrouve avec Christian, mais je la retrouve aussi rien que dans les textes. Et la simplicité, la manière dont lui, il fait, il y a déjà cette musique. Et tout à coup, les mots rassemblés tapent, résonnent dans l'âme directement. C'est un peu mystérieux tout ça, mais je trouve que quand on travaille les textes de Prévert, on cherche ça. On cherche pas à faire aussi, parce que dès qu'on veut être original, on le voit tous les jours d'ailleurs quand on joue. Si on veut tout à coup qu'on est sûr d'un moment ou d'un effet, vous pouvez être sûr que c'est raté. Il faut retrouver le plaisir de la singularité sans se mettre en avant. C'est délicat, c'est un travail sur une corde raide.
Au fond, c'est ce que dit Magritte, il ne faut pas, par un souci d'originalité, venir trahir.
Oui, j'entendais
la
ça.
La peinture. Hein.
Oui. C'est la même chose dans le jeu de l'acteur, je crois. Dès qu'on, parfois, on veut faire les choses, on passe à côté.
Mais le mot, pour vous, est au fond comme une comète chargée d'énergie que vous envoyez vers le public, vers le spectateur ou vers le spectateur de cinéma également. Parce que vous en parlez en ayant l'air de suggérer, Yolande Moreau, que vous avez un rapport très physique, très organique avec le mot, sa prononciation, sa rondeur, son volume.
Je pense qu'il est dans l'art aussi, justement, Prévert à l'art de l'assemblage des mots. Dans le cinéma, puisque j'étais à l'écriture cinématographique aussi, moi ce que j'adore dans l'écriture cinématographique, c'est qu'on peut dire « passe-moi le sel » et avoir plein de choses qu'il y a en dessous de cette phrase. J'aime le dessous des mots au cinéma. Par exemple, ce qui me reste, une de mes premières expériences cinématographiques, c'était avec Agnès Varda, c'est Santoni Loi. La première vision du film, je me suis posé des questions. Et il y avait des choses qui me semblaient tellement étranges. Je me rappelle d'une fille qui n'était pas comédienne, qui était avec ses parents, un repas. Elle était en bout de table et disait « Moi aussi, j'aimerais bien être libre. » Ça semblait complètement artificiel. Des années après, il me reste comme le son, comme la musique de cette phrase, avec sa singularité. J'y associe très fort le portrait de cette fille, qui me reste très fort en mémoire. Et ça, je trouve ça singulier. Il y avait plein d'autres moments de ce film que je retiens, qui sont très forts. Mais je retiens des moments qui, au début, m'ont semblé pas justes. Et je les retiens. Je les retiens, ils m'ont imprimé.
J'aimerais bien que vous nous fassiez entendre, si vous êtes d'accord, Yolande Moreau, ce petit texte que j'ai dit, moi, mal, en ouverture d'émission, sur l'œuf dur que l'on casse.
Oui. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme, la tête de l'homme quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillou.
Et j'ai acheté des oiseaux. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour.
On va faire un petit tour par la Suisse, Yolande Moreau, pour retrouver une artiste qui a été, je crois, importante dans le choix que vous avez fait de devenir comédienne.
Zouk.
Et ça joue. Voilà, il s'agit de Zouk qui explique au micro de l'inénarrable et exceptionnel Jacques Chancel pourquoi elle n'a pas eu d'enfant.
J'ai toujours eu des moments de ma vie où j'avais des théories. La vie est tellement plus forte et à tout moment, on se fait avoir. J'ai des coups de cœur à tout moment. Je devrais avoir 100 000 bébés. Mais je crois qu'il y a une chose, c'est que je crois que je suis une femme angoissée et qu'il refile son angoisse. Et je ne crois pas que j'éduquerai bien un enfant. Donc, j'évite. Quand j'avais 10 ans, il s'est avéré qu'à un moment donné, j'étais hilarisée et en même temps, on me respectait parce que j'étais inquiétante. On ne savait pas très bien où me classer. En fait, c'était ça l'élément qui était intéressant. D'une part, on riait de moi parce que j'étais différente. Je les faisais rire et en même temps, je les inquiétais un peu.
Est-ce que c'est une sorte d'arme pour vous, Zouk ?
En tout cas, d'arme... C'est en la voyant, elle, je pense que j'ai eu un déclic et une envie de faire ce métier.
Pourquoi ?
Parce que, justement, dans sa manière de raconter les choses, je l'ai vue, je me rappelle très bien, c'était au 140 à Bruxelles, en Belgique, et j'étais fascinée par sa manière de raconter des choses, justement avec peu de mots des fois, et de me raconter des choses qui m'interpellaient directement sur la vie, des choses qui me bousculaient. C'est comme de la peinture, en fait. C'est comme de la peinture. Donc, elle traitait directement, différemment le langage. Moi, je crois qu'elle était à l'origine vraiment de cette envie. Après, j'ai fait une école de clown, etc. Mais elle aussi qui m'a influencée dans mon approche, même.
Vous ne pensez pas qu'elle a contribué par l'excellence des sketchs qu'elle a popularisé aussi à travers la télévision, qu'elle a contribué donc à ce que le comique soit considéré?
Ah, certainement. Et d'ailleurs, c'est du tragicomique, Zouk.
Mais vous aussi, vous êtes tragicomique.
Oui, complètement. Complètement. Et c'est une veine que j'aime bien. Là aussi, je vous parlais des cours de clown que j'avais fait dans les années 80. Et qui pour moi ont été très très importants, mais c'est toute la même période pour moi, c'est en voyant Zouk. C'est des cours avec Philippe Gaulier, et je me rappelle très fort un des cours où je voyais, c'était une institutrice qui venait, qui était un peu coincée. Et Philippe Gaulier disait, dis bonjour ma chérie. Et elle disait bonjour, tout le monde riait. Mais cette fille, souvent elle pleurait après le cours. Il y avait une distance à avoir. Et puis, les gens qui faisaient les rigolos, eh ben, ça marchait pas. Et là, je me suis dit, c'est quand il y a de l'humanité qu'on rit. Du coup, même pour moi, tout ce que j'ai fait avec Deschamps, après, je suis restée très longtemps avec Jérôme Deschamps. Je pense que c'est ça qu'on faisait aussi. On mettait de la légèreté dans des choses graves et les personnages et tout ça. Il y avait des gens qui disaient qu'on se moquait. Moi, j'ai toujours dit non. Non, on se moque pas. Il y a juste... J'ai toujours eu horreur, moi, de la moquerie. Moi, j'aime bien des personnages qui ont une humanité. Et puis... Et avec ça, des fois, oui, c'est drôle. J'adore quand c'est drôle et que c'est proche de nous. Il y a des fois, j'ai vu parfois dans certains tournages des réalisateurs qui ont peur de ça, qui ont peur du rire. Alors que moi, j'aime bien le rire, pas celui qui est voulu ou je fais le rigolo. Non, celui qui est juste du décalage, juste à côté.
Vous parlez de Jérôme Deschamps, je vous propose d'écouter ce que dit de vous Macha Makeyev.
Ah. Avec Jérôme, vraiment, on regardait les personnes qui arrivaient, qui voulaient jouer. C'était pas forcément des acteurs, qui voulaient jouer, qui voulaient faire du théâtre. Ils racontaient des histoires avec nous. On voyait toutes leurs, ce qu'on appelait des maladresses au théâtre ou dans les cours, comme des trésors. Et donc, on cherchait ça. Et aussi la puissance d'émotion immédiate. C'est-à-dire, Yolande, elle traversait le plateau où on répétait, enfin, où on faisait cette espèce d'atelier avec eux, pour les connaître. Et Yolande, elle a traversé comme une louve avec ses grandes jambes, comme ça. À l'époque, elle était très, très longiligne. Et avec un mouvement d'épaule magnifique. Et puis, tout d'un coup, elle a retourné ses yeux verts vers nous. Et elle est repartie. Et il y avait quelque chose d'extrêmement musical. Il y avait la grâce. Il n'y avait plus rien à ajouter. C'est du ready-made. Je veux dire, et si on réussissait à montrer ça au public, cette émotion qu'on avait eue uniquement par l'humanité de cette personne, qui était après, qui devenait évidemment une artiste puisqu'elle devait reproduire ça. C'est le génie des acteurs.
C'est beau ce qu'elle dit de vous, Macha Makeyev.
C'est très beau.
Hein, c'est beau. On vous voit traversant ce plateau et vous retournant avec ce mouvement d'épaule. Mais ce qu'elle dit de très intéressant, et j'aimerais qu'on s'y attarde une seconde, Yolande Moreau, c'est ce qu'elle dit de votre humanité que vous ne perdiez pas en recommençant. Ce qui me fait m'interroger sur ce que c'est que votre humanité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une matière brute? Est-ce que c'est quelque chose qui est là en vous, qui est inné? Parce qu'on peut dire de tout le monde qu'il est humain, mais c'est vrai que vous, c'est vraiment le mot qui vient quand on veut parler de vous.
J'ai un peu peur presque du mot, parce que, comme vous dites, tout le monde est humain. Je crois que les cours avec Gaulier, je crois que c'est rester proche de soi, et dans la mesure où je pense qu'on reste proche de ce qu'on est. Je me rappelle des mots de Gaulier, de vendre ce qu'on a. Même des fois, les défauts rend la personne peut-être plus accessible et plus proche, je crois. Moi, je m'interroge toujours avec ce genre d'histoire-là. Comme je disais, ça rejoint ce qu'on dit au début. On essaye de ne pas tricher. Et en même temps, quand on est sur scène, d'avoir aussi tout à coup une certaine folie. Ou quelque chose qui devient plus grand, plus pas la normalité n'est pas intéressante.
Plus inquiétante, comme dit Zouk.
Oui.
J'étais inquiétante. Mais je les faisais rire.
Oui. C'est joli.
Je pense que vous êtes sans doute, vous avez su rester proche de vous, probablement, Yolande Moreau. Mais vous êtes aussi, et c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens ont envers vous cette sorte de sympathie immédiate. Peu de comédiens obtiennent ça ou ont ça d'emblée. Vous êtes proche des autres aussi. On le sent.
Je me sens proche, mais souvent, des fois, quand on me dit ça, on me dit ça des fois quand on présente des films. J'aime bien casser un peu, ça me fait, parce que je me dis, mais vous savez, je suis une vraie salope.
J'ai pas dit que vous étiez une sainte. Hein. Je m'en garderai bien. Je vous connais pas assez pour ça.
Il y a une proximité. D'abord, je suis pas, peut-être, je sais pas. Mais heureusement, je trouve qu'on n'est pas différents, nous aussi, les acteurs. Je ne sais pas.
Qu'est-ce que ça vous a appris, en travaillant avec Jérôme Deschamps et Masha Makaïev, d'être sur une scène sans texte, et donc d'imposer ce qu'on est par sa seule présence, son déplacement, ses mouvements, ses gestes? En quoi est-ce que ça constitue pour vous une richesse pour la suite?
Je reparle des cours de Gigolier, mais en rentrant de mes cours, il m'avait dit... tu dois écrire. Moi, je savais pas que je pouvais écrire, ou je pensais, me sentais pas capable d'allonger des mots. Et du coup, j'avais un demi-masque à l'époque. J'étais dans plusieurs endroits et je m'interdisais d'avoir une idée. Donc, j'allais sur scène. Je me rappelle très fort du premier moment où c'est arrivé, parce que j'étais sur scène. C'était à la Vennerie à Bruxelles. J'avais un copain magicien qui m'a dit, viens faire une improvisation avec ton masque. Et j'étais sur scène et j'avais rien à dire, donc je dis rien. Et les gens sont un peu surpris. Puis à un moment donné, je me dis, ben, il faut quand même que je fasse quelque chose. J'ai tapé avec mon doigt sur le micro. Et les gens éclataient de rire. Je me dis, oh ben, dis donc. Si j'éclate de rire quand je tape sur mon micro, je vais taper deux fois pour faire durer le plaisir. Mais je garde de ce moment un moment très très fort, parce que plus jamais j'aurais ce cul-là. Mais ça veut dire que tout à coup, j'installais un silence qui devait être à moitié gênant. Il y avait une attente, puisque j'étais sur scène et qu'il me regardait. Et que le personnage lui-même, avec le demi-masque, on voit tout le corps. On voit le moindre petit mouvement de main. Le moindre mouvement dans le corps trahit, raconte quelque chose, comme en peinture. Avec Deschamps, pour revenir à votre question, je pense qu'on a fait la même chose. D'ailleurs, moi, je me demandais comment continuer, parce qu'après, j'ai fait un spectacle que j'ai repris dans Quand la mer monte, d'ailleurs. Mais avec Jérôme Deschamps et Masha Makaïev, j'étais contente, j'avais envie de jouer avec d'autres gens, j'avais pas envie de continuer seule. Et du coup... Il y avait, on se répond, s'il y a le jeu théâtral
entre vous tous, oui.
Entre nous tous, où on raconte des histoires différentes au profit dans ces mises en scène magnifiques et très scéniques de Jérôme Deschamps et Masha Makaïev.
Peut-être c'est aussi ça qui fait que on décèle en vous cette immense part d'humanité, c'est que vous en parliez tout à l'heure, mais contrairement à ce qu'on a pu penser, les Deschamps n'étaient pas arrogants, ils n'étaient pas en surplomb, et que à travers vous apparaissaient sur les scènes de théâtre les déclassés, Masha Makaïev aime beaucoup ce mot,
oui.
Les exclus de la société, ceux qui n'ont pas généralement droit
ceux
à la parole,
pas.
Ceux qu'on voit pas.
Oui, tout à fait. Ça me rappelle de ma propre image pendant qu'on travaillait, c'est magnifique. Je me sentais comme une fille. Dans ma tête, hein, pour construire mon personnage. Une fille qui pousse à la campagne, qui pousse un peu comme une mauvaise herbe. Des fois, en jouant au spectacle, je me dis, je représente toutes ces filles-là.
Vous allez refaire un documentaire à l'image de celui que vous avez tourné à Calais, Nulle part en France, qui a été diffusé sur Arte, qui a obtenu un grand succès, parce que c'est un magnifique documentaire sur les migrants qui étaient à Calais. Vous avez envie de recommencer cette aventure-là, Yolande Moreau?
J'aimerais beaucoup, parce que je trouvais ça très riche. Quand on me l'a proposé, j'ai vraiment hésité, parce que je me dis, mais on voit plein de choses sur les migrants, sans arrêt, à la télé. Je me dis, pourquoi on me demande à moi? Et finalement, j'étais heureuse aussi, parce que là aussi, j'employais la poésie de Laurent Godet. Laurent Godet qui a écrit des poèmes. J'avais très peur d'ailleurs de me lancer là-dedans, en me disant, est-ce que vraiment je peux mettre de la poésie sur des choses aussi dures? Et après coup, je suis contente de l'avoir fait, en me disant que il y a plein de supports possibles pour raconter les choses. J'aimerais bien recommencer. Je pense des fois à des sujets, puis voilà. Ça se fera, je prends mon temps.
On se quitte avec un dernier petit poème de Prévert.
Ah d'accord, Adrien, fais pas ta mauvaise tête, reviens. Adrien, fais pas ta mauvaise tête, reviens. La boule de neige que tu m'avais jetée l'hiver dernier à Chamonix, Je l'ai gardée. Elle est sur la cheminée, près de la couronne de mariée de feu ma mère, qui fut assassinée par défunt mon père, qui fut guillotiné un triste matin d'hiver ou de printemps. J'ai eu des torts, j'en conviens. Je suis restée longtemps sans rentrer à la maison, mais je te l'ai toujours caché, c'est que j'étais en prison. J'ai eu des torts, j'en conviens. Souvent, je battais le chien, mais je t'aimais bien.
Merci beaucoup, Yolande Moreau. Prévert, spectacle musical avec vous, Yolande Moreau et Christian Olivier. C'est au Théâtre du Rond-Point du 15 janvier au 10 février. Quant à nous, nous ne nous quittons pas. Nous prenons la direction de la Salle nationale de Poitiers où nous attend le directeur Jérôme Lecardeur.
Poitiers a non seulement un héritage social et culturel important depuis 1977, et par ailleurs, c'est une ville jeune, grâce à son énorme université, avec presque 30 000 étudiants aujourd'hui. Et c'est ce constat sociologique qui m'a permis non seulement de bâtir un projet sur la jeunesse et l'international, qui de surcroît m'a permis aussi de nouer des liens avec l'université, comme peu de mes collègues y parviennent. Ils en sont d'ailleurs jaloux, au bon sens du terme.
Cet héritage de 1977 auquel vous faites allusion, quel est-il ?
La gauche gagne en fait en 77 avec un maire qui s'appelait Jacques Centreau et comprend qu'il a gagné par les quartiers contre le centre-ville et installe dans tous ses quartiers une structure sociale et culturelle avec une équipe qui était très militante sur la culture. Donc cet héritage a permis d'installer plus tard une scène nationale sans lieu, puis une scène nationale qui a vu se construire un bâtiment assez extraordinaire, assez imposant par rapport même à la taille de la ville.
Ce que vous dites, Jérôme Lecardeur, c'est que lorsqu'il y a volonté politique, derrière, les choses peuvent bouger.
Oui, et le vrai miracle poitevin, me semble-t-il, c'est que toutes les collectivités se sont mises autour d'une table pour décider et l'édification et le financement de cette maison, toutes tendances confondues. C'est ça qui me touche, c'est cet héritage-là qui permet d'avoir une maison aussi importante et aussi vivante, hélas aujourd'hui entachée du départ assez impromptu et très très désagréable pour nous d'une des collectivités, en l'occurrence le département de la Vienne.
Justement, qu'est-ce que ça change pour vous, la reconfiguration des régions ?
C'est considérable. Dans le cadre de Poitou-Charentes, qui était donc une région de taille moyenne, quatre départements, extrêmement bien équipés en termes culturels, c'était un livre ouvert d'aménagement du territoire culturel. Quatre départements, quatre villes moyennes, quatre scènes nationales, toutes doublées d'un établissement spécialisé d'une nature différente. Et aujourd'hui, nous sommes dans une énorme région, vous le savez, la plus vaste du pays, la taille de l'Autriche, avec une ville énorme qui pourrait centraliser, aspirer beaucoup, beaucoup des compétences.
Là,
et
vous parlez de Bordeaux, là. C'est
bien
la nouvelle Aquitaine.
Donc, c'est une inquiétude que je crois qui est partagée. Et je ne cesse de dire, mais je crois aussi que les élus régionaux l'entendent volontiers, je ne cesse de dire qu'il faut que, dans une région de cette taille, encore une fois, de la taille d'un pays, il faut qu'il y ait des pôles d'équilibre qui pourraient être, vous voyez, le Bayeux anglais de Biarritz au sud, Bordeaux, évidemment, au cœur de la région, Limoges à l'ouest et Poitiers au nord. Donc, je crois vraiment en cette notion de pôle d'équilibre de Poitiers au nord de la région.
Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glengould, ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques.
Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Et les torchers.
Alexandre Dang, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous et surtout très bonne année 2019.
Moi, bestiole. Et moi, moi je n'étais qu'un bout de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. Et toutes ces amours qui se détraquent, et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole, et toutes mes erreurs de zodiaque, et mes sautes de boussole, et toi, les pieds dans le. Moi et ma tête à claque, j'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Et moi, moi je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques. Qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbacs. Et oh, oh, oh. Qui se foutent de Mozart, de Bach. Je donnerai Ray Charles, Mozart en vrac, la vie en rose, le rock and roll, tous ces bémols et tous ces couacs. Glenn Gould, dans ce prélude de Bach.